Radio Okapi. Et le journal vous est présenté par Belinda Bossouma.
Assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi à Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga appelle à la mobilisation pour retrouver les auteurs de ce crime. Une somme de 5000 dollars américains sera offerte à toute personne qui contribuera à rétablir la vérité à ce sujet, indique un communiqué du gouverneur du Haut-Katanga. Procès de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024. Début hier des plaidoiries de la défense. Pour la défense de l'Américain Benjamin Zalman, le juge d'appel ne doit pas condamner les prévenus à la peine de mort, puisque celle-ci a déjà été abolie par la Constitution. Et puis, Patrick Muyaya Katembwe est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlons du bilan du gouvernement souminois 7 mois après son investiture. Le porte-parole du gouvernement congolais a accordé une interview hier à Radio Okapi. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouverneur du Haut-Katanga appelle la population de sa juridiction, particulièrement de la ville de Lubumbashi, à se mobiliser pour dénoncer les bandes des malfrats et autres bandits, ainsi que leurs meneurs qui agressent et tuent sans foi ni loi à travers les cités de cette région. C'est dans cet ordre d'idées que le comité provincial de sécurité dit offrir une somme de 5000 dollars américains à toute personne qui contribuera à la manifestation de la vérité sur le crime odieux du regretté journaliste Patrick Adonis Numbi Banza. C'est ce qu'indique un communiqué officiel du cabinet du gouverneur consulté hier par Radio Okapi. Grâce Amzati nous en dit plus.
Selon ce communiqué, le gouverneur du Haut-Katanga, aussitôt informé sur le meurtre dans la nuit du mardi 7 janvier dernier du journaliste Patrick Adonis Numbi Banza, a tenu à faire la lumière sur ce drame en instruisant les services de renseignement et de sécurité de mettre tout en œuvre pour rechercher, identifier et déférer devant la justice les criminels actuellement en fuite. À la suite de ces crimes, indique les communiqués, l'autorité provinciale a successivement reçu le commissaire provincial de la police nationale congolaise, les parents du défunt accompagnés de la veuve ainsi que des professionnels des médias. Il s'agissait d'une part de rappeler au commandant de la police l'ordre de renforcement des mesures de sécurité déjà prises par le comité provincial de sécurité et d'autre part de rassurer la famille biologique du défunt et les professionnels des médias sur l'engagement de l'autorité provinciale à diligenter les enquêtes jusqu'à leur conclusion définitive, ajoute les communiqués. Tout en saluant le civisme de la population pour sa contribution au respect de l'ordre public, le gouverneur exhorte les forces de l'ordre et de sécurité à une vigilance maximale, conclut les communiqués.
Par ailleurs, toujours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 5 corps sans vie ont été découverts hier dans l'avant-midi. Ces personnes ont été tuées à différents endroits selon des sources sécuritaires. 4 dans la commune de Kamalondo et une autre à l'entrée du tunnel qui mène vers la commune de Kampemba. Ces corps portent des traces de violence. Jusqu'à présent, les auteurs ne sont pas encore identifiés. Les corps étaient dans des caniveaux, notamment à l'angle des avenues des écoles et Sendwe devant l'Institut Nourou pour enfants aveugles, au camp assistant et à côté du lycée Wema. Le 5e était à l'entrée du tunnel qui mène vers le quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Cette situation crée la psychose car en l'espace d'une semaine, c'est plus de 10 personnes qui ont été tuées à Lubumbashi et à Likasi. Pendant ce temps, les opérations de bouclage sont organisées dans plusieurs quartiers de la ville cuprifère. Au Congo central, le territoire de Sekebanza enregistre un triple meurtre. Les 3 personnes sont des victimes d'un jeune homme qui les a froidement tuées l'une après l'autre lundi, alors qu'elles ne s'y attendaient pas, disent des témoins. Le commandant territorial de la police de Sekebanza, qui confirme l'information, indique qu'il s'agit d'un fils qui a agressé à mort son père et l'ami de son père avant d'être tué lui-même par la population. Selon le colonel Monga Malassi, l'agresseur était atteint de maladie mentale après avoir touché au fétiche. Nana Plurish Mambu nous raconte.
Gédéon Tona alias Azaza, la trentaine révolue, fait irruption à la maison de ses parents. Muni d'un couteau, ces derniers poignardent de son père, Tona Ibrahim, superviseur à la zone de santé de Sekebanza. Pendant qu'il agressait sa marâtre à l'aide de ces mêmes couteaux, un voisin du nom de Dumbi Chumba qui intervient pour l'arrêter est surpris lui aussi par un coup de couteau à la gorge. Les voisins et les pères de l'agresseur succombent à leurs blessures sur les champs. Le policier venu en premier pour tenter d'arrêter Gédéon Tona est blessé aussi. C'est avant l'arrivée des renforts que la population se rue sur l'agresseur et les tabasse à mort. Le commissaire principal Mongamala s'y précise qu'en ce moment, la marâtre de l'agresseur et les policiers reçoivent des soins appropriés dans un hôpital de la place. Tandis que les corps de ces deux victimes et celui de l'agresseur sont gardés à la morgue de Kinsamvuete. D'après les membres de la famille, l'agresseur Gédéon Tona revenait du Congo-Brazzaville où il aurait touché au fétiche dans le but de s'enrichir rapidement. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, la société civile du quartier Ngadi appelle la population, particulièrement les agriculteurs, à doubler de vigilance dans ses mouvements vers les champs agricoles dans le Mayangose. C'est au lendemain d'une attaque des rebelles ADF qui a ciblé le village de Kipeayo. Stéphane Mbakama, président de cette structure citoyenne, appelle la population au respect des mesures sécuritaires fixant à 6h du matin l'heure de se rendre au champ et 15h l'heure de retour. Stéphane Mbakama l'a dit à Marc Marofimbo.
Je lance un message à la population de bien vouloir respecter les temps dictés par les autorités pour entrer et sortir de leurs champs. Parce que le temps que nous vivons est mauvais avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la région où nous tous cultivons. Notre première sécurité, c'est d'abord notre vigilance et le respect des consignes dictées par les autorités. Car les autorités nous demandent d'entrer dans nos champs à 6h et qu'à 15h, les derniers cultivateurs doivent quitter les champs parce que la situation n'est pas bonne. Nous demandons également aux autorités militaires de nous aider car nous savons qu'il y avait des positions militaires dans cette zone agricole, mais pour l'instant, elles ne sont plus. La population qui entre là-bas est en danger car elle n'a personne pour la protéger. Mais une fois ces positions seront installées, les cultivateurs y entreront en toute sécurité car ils sauront qu'il y a les cas militaires auprès de leurs champs.
En Ituri, signalons la reprise des activités lundi à Biakato Centre dans le territoire de Mambasa. C'est après 3 jours de ville morte décrétée la semaine dernière par les structures de la société civile locale qui entendaient ainsi dénoncer les cas de meurtre, assassinat et extorsion enregistrés depuis décembre dans cette partie du pays. Mais les organisateurs disent n'avoir pas été entendus par les autorités, ce qui laisse augurer d'autres possibles actions à venir. Martial Kizabiamungu, reportage.
C'est lundi matin, les rues de Biakato Centre ont été envahies par des milliers d'élèves en uniforme qui avaient repris le chemin de l'école. Boutiques, magasins et les marchés ont fonctionné normalement. Il y a 4 jours, ces grands centres commerciaux ressemblaient à une ville fantôme. C'était à la suite de la cessation des activités socio-économiques par la population qui répondait au mot d'ordre des villes mortes décrétées par des structures de la société civile locale. Au terme d'une rencontre d'évaluation ce lundi, à Biakato Centre, les organisateurs disent avoir constaté avec regret que les revendications n'ont pas été prises en compte par les autorités. Mandela Moussa, le président de la synergie de la société civile de Babila Babombi.
Nous continuons à faire des réunions dans des agglomérations pour faire participer dans la deuxième phase toute la population et savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on réclame pour qu'il y ait la paix dans cette partie du territoire de Mambasa.
L'administrateur du territoire de Mambasa dit avoir instruit les commandants locaux des FRDC à Biakato d'organiser régulièrement des réunions stratégiques du comité de sécurité pour faire face à cette situation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Justice. Début hier des plaidoiries de la défense au procès en appel de la tentative de coup d'État manqué le 19 mai 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe à la prison militaire de Ndolo. La défense de l'Américain Benjamin Zalman réédite sa plaidoirie du premier degré. Le juge d'appel ne doit pas condamner les prévenus à la peine de mort puisque celle-ci a été déjà abolie par la Constitution, plaide maître Richard Bondo, l'avocat de l'Américain. La dernière audience des plaidoiries se tiendra demain mercredi et elle sera suivie des répliques du ministère public et de toutes les parties au procès avant le délibéré des juges. Maître Richard Bondo nous fait l'économie de sa plaidoirie au micro de Jeff Ngoy.
La peine de mort est déjà abolie et que la paresse du législateur ne transforme pas le juge en législateur pour que le juge supplée au silence des députés et sénateurs, donc du Parlement. C'est un peu ça pour démontrer que, pour conclure à un non-lieu à l'action publique déclenchée par le ministère public. C'est en résumé ça avec l'incise que la République démocratique du Congo, sa constitution partie civile est illicite au simple motif que le ministre qui statue par voie d'arrêté selon l'article 93 ou 93 alinéa 2 de la Constitution a donné mandat aux avocats par simple procuration non couvert par voie d'arrêté.
Justice toujours, au Sud Kivu, ouverture hier lundi devant le tribunal de grande instance de Bukavu du procès en flagrance des trois ressortissants chinois. Ils sont poursuivis notamment pour exploitation illicite des minerais au Sud Kivu. Les ressortissants chinois par devant votre tribunal sont poursuivis pour séjour irrégulier en RDC, fraude et pillage des ressources minières, exploitation illicite des minerais, blanchiment des capitaux, achat illicite des substances minérales, détention illicite des substances minérales minérale et entrave à la transparence dans l'industrie minière, a indiqué l'avocat général Willy Mbayi Mwanza, représentant le ministère public. D'autres détails avec Alain Rongoshinj.
Le service de communication du gouverneur du Sud Kivu avait annoncé dimanche 5 janvier dernier par les services de sécurité provinciaux l'arrestation des trois Chinois pour exploitation illégale des minerais à Rubimbi dans le territoire de Walungu. Ces Chinois étaient en possession de 10 lingots d'or et d'une somme importante d'argent en dollars américains sans aucune précision selon la même source. Cette arrestation était intervenue après celle de 14 autres Chinois en mi-décembre dernier. Tous avaient été expulsés en Chine sur ordre de la haute hiérarchie de la Direction générale des migrations depuis Kinshasa, au grand dam du gouverneur de la province du Sud Kivu et de plusieurs associations congolaises, notamment celles œuvrant dans le secteur de l'exploitation minière.
Direction la province de l'Omami, hausse de tarifs au péage de Mweneditu. Une voiture qui payait 15 000 francs congolais est soumise au paiement de 40 000 francs aller comme retour. La direction générale des recettes de l'Omami dit appliquer la nomenclature affichée dans le budget en exercice. Des précisions avec Esther Ndalafina.
Les conducteurs des voitures et autres véhicules qui empruntent la RN1 axe Mweneditu Mbujimayi se plaignent de la hausse des tarifs au péage à l'entrée de la ville de Mweneditu. Explication d'un conducteur des voitures.
Aujourd'hui, on nous demande de payer 40 000 francs congolais. Ce soir, on a même bloqué les passages. C'est-à-dire, pour aller 40 000 et pour retourner 40 000 francs. Pourquoi pouvons-nous souffrir dans notre propre pays?
Contacter le directeur général des recettes de l'Omami affirme que la régie financière provinciale applique désormais la nomenclature des prix fixés par la province.
C'est le taux du budget 2025 que nous, en tant qu'exécutants, nous allons mettre en place. Donc c'est ça.
Signalons qu'avec le nouveau tarif, les véhicules qui payaient 75 000 francs doivent désormais payer 150 000 francs congolais. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Capitale.
Et puis, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paloukouré, conduit les mesures des restrictions temporaires d'importation de certains produits pour une durée de 12 mois. Son communiqué publié hier lundi à Kinshasa et parvenu à Radio Capi rappelle que ces mesures concernent entre autres des carreaux et des faïences dans la partie ouest de la RDC. D'autres détails avec Dona Madimba Mbaya.
Sont aussi concernés par cette décision du ministère des câbles électriques rigides, armés et flexibles ainsi que des barres de fer dans la partie ouest de la RDC. Le communiqué indique qu'en cas de nécessité d'approvisionnement dans les parties du territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation d'importation accordée par le ministère ayant le commerce extérieur dans ses attributions. En outre, précise le communiqué, le requérant doit spécifier expressément et préalablement dans sa lettre de demande le lieu de destination et le numéro de lot de la marchandise concernée. Le communiqué ajoute que la dite demande doit être accompagnée de la liasse documentaire validée par le guichet unique intégral du commerce extérieur Ségus RDC à défaut d'être rejetée.
Actualité internationale.
Un bateau de pêche chinois détourné au large des côtes somaliennes en novembre a été libéré avec son équipage de 18 membres, a annoncé lundi l'ambassade de Chine en Somalie. L'ambassade a déclaré dans un communiqué publié sur X que l'équipage avait été secouru lundi grâce aux efforts incessants du gouvernement chinois. Los Angeles se prépare au retour de vents violents menaçant d'attiser les incendies. Assiégée par les flammes depuis mardi dernier, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis continue de compter ses morts. Le bilan s'est alourdi dimanche au soir à 24 morts selon le service de médecine légale du comté de Los Angeles.
L'invité.
Patrick Muyaya Katembwe est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlons du bilan du gouvernement Soumino à 7 mois après son investiture. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, le gouvernement est déterminé à bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et travaille pour l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais. Le ministre Patrick Muyaya est avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes porte-parole du gouvernement souminois. En tant que tel, quel bilan faites-vous de l'action de votre gouvernement dans les secteurs de la sécurité et socio-économique près de 7 mois après votre investiture?
Écoutez, il sera difficile d'abord de faire un bilan à 7 mois, mais ici, ça peut nous permettre de regarder parce que nous sommes dans un mandat de consolidation des acquis et que la première ministre Judith Suminoua s'inscrit dans la vision portée par le président de la République. Aujourd'hui, pour parler par exemple du secteur de la sécurité, la menace principale que nous avons, c'est l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Et pour y répondre aujourd'hui, nous avons une stratégie claire qui consiste à un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire, un front médiatique. Ce qu'on entend par front militaire, c'est tous les efforts qui sont consentis par le président de la République, commandant suprême de forces armées, pour la montée en puissance de nos forces armées, mais aussi pour donner les moyens à nos militaires de tenir les différentes lignes de front et bouter hors de notre territoire les agresseurs rwandais. Sur le front diplomatique, c'est le processus de Luanda qui est grippé aujourd'hui parce que simplement le président rwandais, sentant la mort de son fils préféré, les M23, venir, a préféré s'abstenir parce qu'il faut continuer en parallèle le processus des pillages systématiques de ressources de la RDC qui a été bien documenté par les derniers rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais justement parce que l'économie c'est aussi un front, aujourd'hui regardez l'action judiciaire que nous avons portée contre Apple en France et en Belgique. Apple a décidé de ne plus s'approvisionner dans la région. Ce qui est déjà illustratif de progrès que nous faisons dans ce sens, parce que dire qu'ils s'approvisionneront plus et reconnaître qu'ils approvisionnaient dans la région et que cela profitait à la propagande entretenue par le Rwanda. Sur le front judiciaire, dans quelques jours ici s'ouvre un procès à Arusha où nous serons en face des Rwandais au tribunal pour justement obtenir une condamnation par rapport à l'agression qu'il y a dans l'Est de la RDC, mais pas simplement pour le Rwanda, mais pour tous ces auteurs des crimes imprescriptibles commis contre nos populations. Et puis sur le front médiatique, la nécessité pour nous d'être mobilisés derrière les forces armées, notamment à travers les médias, pour que tous les Congolais puissent avoir la même compréhension de ces conflits, que les Congolais de Dilolo ou que les Congolais de Walungu soient en mesure tous de se mobiliser en même temps derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour y apporter la réponse, parce que justement, nous sommes en face de l'empire du mensonge, le pays qui a industrialisé la propagation de fake news. Il est important que notre population puisse être bien informée. Au plan socio-économique, je peux parler encore de la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de l'étendre au niveau secondaire. Au plan socio-économique, nous avions pris l'engagement d'améliorer le pouvoir d'achat du Congolais. C'était le deuxième engagement pris par le président de la République. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez depuis que Madame Soumino est à la tête du gouvernement, vous allez voir que le taux d'échange ou les signes, les cadres macroéconomiques est plutôt stable. C'est une stratégie de préservation, mais que dans un autre volet, vous avez vu la baisse de prix du carburant, la baisse de prix de denrées de première nécessité, c'est qui pour nous, En réalité, c'est des objectifs que nous avons atteints, mais nous ne nous, nous satisfaisons pas de ça parce que nous devons faire davantage, notamment en accroissant la production locale et en permettant aux Congolais d'avoir aujourd'hui la possibilité, avec leurs revenus, de vivre décemment. Et ça, c'est les efforts que nous continuons de faire.
Voilà. Dites-nous, monsieur le porte-parole du gouvernement, quelles sont les nouvelles fraîches provenant du front? Je vais dire, comment se comportent nos forces armées actuellement?
Mais nos forces armées se comportent plutôt bien. Vous avez lu les derniers rapports de Nations Unies qui parlent de 4000, presque le dixième de l'armée rwandaise opère en République démocratique du Congo avec des supplétifs terroristes et que tous les fronts sont tenus comme nous les disons régulièrement. C'est une guerre. Il y a des batailles que nous concédons, il y a des batailles que nous gagnons, mais la vérité c'est que nos militaires font preuve d'une bravoure exceptionnelle et dans les jours qui viennent, nous sommes sûrs qu'avec le moyen mis à disposition par les commandants suprêmes, nous irons des victoires en victoire sur l'ennemi.
Patrick Mouyaya-Katemboué, ministre de la Communication et Médias, je vous remercie.
Le porte-parole du gouvernement congolais répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.